Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Le retour de Joe Biden à titre cette fois de président des États-Unis marquera à coup sûr un tournant dans les relations des États-Unis avec le monde. Au bilatéralisme agressif de Donald Trump succédera un multilatéralisme, le même qui prévalait jusqu'à la présidence de Barack Obama avant Donald Trump. La tâche s'annonce difficile, tant le vide créé depuis 4 ans a été comblé par d'autres joueurs. Le point avec mon chroniqueur Benjamin Boivin, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Bonjour Benjamin.
Bonjour Jean-Philippe, vous allez bien?
Oui, et vous?
Oui, pas mal.
Alors écoutez, grand sujet encore une fois, le premier sujet était très grand, cette fois-ci un autre, la politique étrangère états-unienne, c'est vaste.
Oui, vaste programme.
Oui, comme disait De Gaulle. Allez-y.
Bon, mais évidemment, la vie politique américaine, si on s'y intéresse, c'est pas uniquement parce que c'est spectaculaire, théâtral, particulièrement intéressant ou historique dans le contexte de Donald Trump. C'est aussi et surtout parce que la politique étrangère des États-Unis, en particulier, elle contribue à déterminer l'ordre du monde, en fin de compte. Puis, en raison de son statut d'hyperpuissance mondiale, puis en particulier parce que nous sommes voisins avec les États-Unis, là, on a toutes les raisons de s'y intéresser et de porter attention à ce qui s'y passe.
Ben, si j'ose dire, c'est ce que vous dites, si je vous comprends bien, Benjamin Boivin, c'est que quand les États-Unis éternuent, le monde a un rhume.
Oui, d'une certaine manière.
À peu près?
Je pense que c'est une bonne description de la situation. Donc, Puis en particulier, depuis la fin de la guerre froide, les Américains ont, pendant les années 90, début des années 2000, véritablement été les gendarmes du monde. Ils ont principalement déterminé les tenants et aboutissants des grandes négociations internationales. Ils ont été le facteur déterminant. Et puis, dans les dernières années, là, en particulier depuis la crise économique de 2008, ça a été pas mal plus difficile pour les Américains de vraiment imposer leur volonté sur le monde. Et puis, on a même assisté, déjà à l'époque de Obama, à une révision à la baisse des ambitions américaines. Obama avait été beaucoup moins ambitieux dans ses aventures militaires, notamment, qu'il avait été son prédécesseur. Mais malgré tout, les Américains, à l'époque d'Obama, jouissaient d'un certain prestige, d'une certaine attention, et puis on attendait de savoir ce qu'ils allaient faire avant de prendre des grandes décisions. Puis sous son successeur, M. Trump, c'est devenu une autre histoire. On l'a souvent décrit comme un isolationniste, un protectionniste, éventuellement un nationaliste économique. On peut se questionner sur la qualité de ces descriptifs-là, mais en fin de compte, c'est certain que les Américains ont reculé sur le point de leur influence sur la scène internationale.
Mais de toute façon, toute l'histoire des États-Unis est une oscillation perpétuelle entre l'isolationnisme et l'interventionnisme, non?
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est une profonde tension dans la culture de politique étrangère américaine de savoir est-ce qu'on devrait se comporter comme un empire et puis imposer notre volonté dans le monde, ou est-ce que plutôt on devrait vivre dans notre petite utopie libérale sans trop se préoccuper de ce qui se passe en Europe ou ailleurs. C'était particulièrement une perspective dominante jusqu'à la fin du 19e siècle et puis au début du 20e siècle. Et puis à partir de ce moment-là, pour toutes sortes de raisons, les Américains se sont mis à avoir une politique plutôt impériale, on pourrait dire.
Effectivement. Donald Trump a été président pendant 4 ans. Il a vraiment sabré dans bien des projets, des politiques états-uniennes d'avant. Donald Trump était vraiment un partisan du bilatéralisme et non pas du multilatéralisme. Ce sont des dégâts ou c'est une réorientation qu'il a fait?
Eh bien, dans une certaine perspective, je pense qu'on pourrait parler de dégâts, parce que la manière dont ça s'est produit, c'est une coupure du lien de confiance entre les États-Unis puis les autres sociétés occidentales, mais également ailleurs. Il y a plusieurs ententes qui avaient été formulées sous la présidence d'Obama, avec lesquelles M. Trump était en désaccord, et soit. Mais lorsqu'un accord international est signé, sur le point d'être ratifié, comme l'accord de Paris, par exemple, comme le partenariat transpacifique au niveau économique, qui était très avancé, eh bien, lorsque les États-Unis se retirent à la toute dernière minute de ce genre d'accord-là, ça mine la crédibilité et puis la confiance que les autres pays peuvent avoir en la politique américaine. Et puis, ce bris du lien de confiance risque d'avoir des impacts bien après le départ de Trump.
En revanche, pour le chapitre chinois, Trump est vraiment le premier qui a dit clairement, mais vraiment et sans embâge, sans phare, que la Chine était l'ennemi à abattre ou en tout cas à contenir. On le disait, on le chuchotait auparavant, mais Trump a mis les points sur les i, P-O-I-N-G-S, tant qu'à faire.
Oui, vous avez raison. Et je pense en fait que probablement l'un des héritages les plus durables de la politique étrangère de Trump, ça va être toute cette question-là de la Chine. Parce que jusqu'à l'époque de Obama, même assez tardivement, les Américains avaient une politique qui visait à libéraliser finalement la Chine, normaliser ce pays-là pour entrer en relation économique avec lui. Et puis, Trump a véritablement changé le discours. Et puis, aujourd'hui, là, il y a très peu de gens dans les élites politiques américaines qui continuent de parler de la Chine en des termes aussi mièvres qu'on entendait peut-être George Bush fils, par exemple, en parler au début des années 2000.
Donc, Joe Biden, on ne s'attendra pas à ce qu'il change le discours sur la Chine par rapport à Donald Trump. Il va chausser un peu les mêmes chaussures, peut-être avec un peu plus de délicatesse.
On risque d'avoir un changement d'orientation malgré tout, parce que Trump avait beaucoup insisté sur la dimension économique de la menace chinoise.
Ouais.
Il y avait eu une guerre commerciale assez intense entre les États-Unis et puis la Chine. Et puis, on a pu critiquer certains des moyens particuliers que Trump, à l'époque, utilisait pour faire avancer ses projets. Là. Il n'était pas toujours à l'avantage de la classe moyenne aux États-Unis. Mm-hmm. Biden a décidé de tenir un discours assez musclé à l'égard de la Chine dans les dernières semaines, dans le début de sa présidence. Mais il a notamment beaucoup plus insisté sur la question des droits humains et des exactions, notamment de la communauté Ouïghour aux États-Unis, qui est victime d'un authentique génocide du point de vue de plusieurs. Donc, on va assister à des accents différents que ce qu'on avait vu sous Trump.
Moyen-Orient, Iran et tout ça, je veux dire, les États-Unis se sont retirés du pacte nucléaire avec l'Iran, donc au grand dam des Russes et des Européens, et de l'Union Européenne ou des Nations Unies, j'oublie qui. Côté militaire, c'est-à-dire que côté nucléaire, militaire, est-ce que les États-Unis vont se renfermer sur eux-mêmes? Déjà que sous Barack Obama, ça commençait à battre de l'aile, vous l'avez dit. Sous Donald Trump, il y a eu un désengagement de plus en plus marqué. Avec Biden, à quoi peut-on s'attendre en général?
D'un point de vue militaire, je pense qu'on peut s'attendre à une continuation de la politique de désengagement qui avait commencé sous Obama, mais certainement pas au niveau de ce qu'on a vu sous Trump. Trump est l'un des rares présidents dans l'histoire récente des États-Unis qui n'a pas lancé les États-Unis dans une nouvelle entreprise militaire. On ne peut certainement pas dire la même chose de Barack Obama, qui a poursuivi les guerres de Bush puis qui en a commencé de nouvelles. Mais bon, on sait qu'à l'époque où Biden était vice-président, entre 2009 et 2017, il faisait partie de la partie plus modérée du cabinet sur ces questions-là. Il était beaucoup moins enclin à entrer en guerre, par exemple, que Hillary Clinton.
Mm-hmm. Joe Biden a quand même une némésis sur moi assez lourd. Il s'appelle Donald Trump, qui, lui, ne semble pas vouloir accrocher ses patins. C'est bien beau de penser à une politique étrangère états-unienne sous Joe Biden, mais par la nature même du système démocratique électoral états-unien, je veux dire, dans 4 ans, il y aura peut-être un nouveau président, et même dans 2 ans, aux élections de mi-mandat, peut-être que les républicains vont reprendre le contrôle du Congrès. Est-ce que un président états-unien peut orienter une nouvelle politique étrangère compte tenu des délais si serrés, des délais électoraux si serrés que ça?
D'une manière, ce que vous dites est particulièrement significatif. Là, c'est particulièrement difficile pour les États-Unis de rétablir leur crédibilité dans un contexte où, finalement, comme vous le dites, Biden pourrait perdre dans 4 ans s'il choisit de se représenter. Le candidat démocrate, qu'il soit Biden ou non, pourrait perdre. Ça pourrait être une nouvelle administration républicaine. Éventuellement, même Donald Trump pourrait revenir. Mais malgré tout, le président, en matière de politique étrangère, a davantage le loisir de déterminer sa politique que sur la plupart des enjeux domestiques ou intérieurs. Parce que c'est essentiellement une question qui est gérée au niveau exécutif de la politique étrangère, même si certains argumenteraient que la Constitution américaine prévoyait initialement un rôle pour le Congrès en cette matière-là. Biden va quand même avoir la possibilité de mettre la politique étrangère à sa manière. Mais la question que vont se poser les alliés des États-Unis, et puis en particulier l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, etc., ça va être de savoir s'ils peuvent faire confiance aux États-Unis post-Biden.
Post-Biden, c'est ça. En tout cas, en attendant, Joe Biden, quand il était sénateur, a présidé des tas de comités dans le domaine des affaires étrangères. Donc, il a un carnet de contacts bien garni. Déjà ça, on n'a pas à craindre de ce côté-là. Et en plus, contrairement à Donald Trump, qui avait décoiffé tous les grands organismes et ministères pour placer des copains, Joe Biden a remis des gens expérimentés, des fonctionnaires, des gens qui connaissent leur dossier. Donc, on a de ce côté-là au moins une stabilisation.
Oui, tout à fait. On pourrait même dire que c'est une rupture d'une certaine manière dans l'histoire récente, dans l'histoire présidentielle récente, parce que, bon, à l'époque de Bush père, on avait un président expérimenté en affaires de politique étrangère, mais par la suite, sous Clinton, Bush fils, Obama, c'était des présidents relativement jeunes, relativement peu expérimentés, dont la carrière politique avait été plutôt brève avant le début de leur présidence. Et comme vous l'avez dit, Biden a toute une carrière de législateur et puis de vice-président par la suite. Puis c'est bien distingué en matière de politique étrangère. Ce qui ne veut pas dire que sur les questions les plus importantes, il a toujours eu raison. On se souviendra qu'en 2003, il avait voté pour l'invasion de l'Irak. un vote qu'il a regretté par la suite. Puis, comme vous le dites, Biden a fait des choix vraiment différents que ce qu'on avait vu sous Trump dans la formation de son cabinet. On peut parler en particulier de son secrétaire d'État, qui est Antony Blinken. Anthony Blinken, c'est un diplomate de carrière qui a longtemps travaillé au département d'État, un proche de Biden personnellement, mais une personne qui avait été le numéro 2 du département d'État et puis le numéro 2 du Conseil à la sécurité nationale pour le vice-président dans les années Obama. Donc, c'est vraiment une personne expérimentée, un fonctionnaire de carrière. Mm-hmm. Puis Lloyd Austin, qui est le premier afro-américain à exercer la fonction de secrétaire de la défense, ben c'est un général d'armée à la retraite. Donc, encore une fois, une personne qui est habitué d'exercer, de servir le public dans l'appareil d'État.
Donc, au moins, de ce côté-là, on peut s'attendre à moins de cafouillage que sous Trump.
Ben oui, c'est certain que sous Trump, l'une des grandes caractéristiques de l'administration Trump, dont on se souviendra dans le futur, c'est certainement les changements incessants de personnel dans les plus hautes sphères de son administration. Mm-hmm. On a été, pendant des longues périodes de temps, au département de la Défense, sans avoir de secrétaire officiel en poste, là. Trump a utilisé une stratégie qui consistait à laisser des secrétaires intérimaires en poste pendant très longtemps pour éviter d'avoir à faire face au Sénat dans les confirmations de ses candidats. Donc c'est vraiment un retour à la normale de ce point de vue-là.
J'avais évoqué le copinage. Est-ce que c'est moi qui dis des âneries ou est-ce qu'il y a vraiment placé des complices, des gens?
Non, je pense que vous avez raison. Puis de manière générale, il a nommé des gens qui étaient proches de lui, souvent des donateurs de sa campagne. Puis éventuellement même des gens qui n'avaient aucune compétence sous aucun rapport pour exercer les fonctions les plus hautes fonctions de l'État. On se souviendra de Rex Tillerson, par exemple, qui avait été le premier secrétaire d'État de Trump. Ben, Rex Tillerson, c'était le chef d'une immense entreprise pétrolière, ExxonMobil. Donc, aucunement de personne habituellement qualifiée pour exercer ce genre de fonction-là.
Évidemment. En plus, Tony Blinken, le nouveau secrétaire au département d'État, ça veut dire être affaires étrangères, c'est ça, non?
Oui, oui, exactement. Aux États-Unis, c'est un nom différent. Mais...
OK. Il parle français aussi, en plus, non?
Oui, oui, Tony Blinken est un authentique francophile. Il parle un français encore meilleur que celui de John Kerry, qui avait été secrétaire d'État sous Obama.
Bon, écoutez,
et puis, il y a un héritage familial issu de l'Holocauste, en fait.
Ah, d'accord, je comprends très bien, je comprends bien. En quelques mots, comment est-ce qu'on pourrait définir la politique étrangère états-unienne? On viendra aux enjeux dans une ou deux secondes, mais est-ce qu'il y a moyen de qualifier l'orthodoxie de la politique étrangère états-unienne ou on y va un peu à la va comme je te pousse?
Ben, en théorie des relations internationales, on parle parfois de libéralisme pour décrire une certaine vision de l'ordre international basée sur le commerce, la régulation, les principes de droit. Et puis c'est vraiment cette vision-là des relations internationales que Biden et puis la plupart de ses prédécesseurs ont véhiculé depuis au moins le milieu des années 70. Mm-hmm. Puis c'est vraiment la vision qui est celle de Biden. Et puis sous Trump, on avait vraiment un contraste saisissant, là, une vision plus réaliste, plus revancharde, plus guerrière. Mm-hmm. Mais je pense que sous Biden, on est dans le retour à l'orthodoxie washingtonienne, pourrait-on dire.
Mm-hmm. D'accord. Est-ce qu'il y a Teddy Roosevelt, qui avait été président des États-Unis à la fin du 19e siècle, avait une formule « speak softly and carry a big stick », parler doucement mais ayez un gros gourdin derrière le dos au cas où on ne vous entendrait pas. Est-ce que ça fait partie de l'orthodoxie états-unienne aussi ou pas?
Ben, on a souvent entendu cette phrase-là être répétée par des présidents depuis. Exactement. De façon intéressante, je pense qu'on pourrait dire que la politique de Trump, ça a été exactement l'opposé, parce que Trump allait très fort, mais finalement... Il n'y a jamais eu de véritable volonté d'agir militairement, par exemple, d'un point de vue de politique étrangère, ce qui n'est possiblement pas une mauvaise chose, en définitive.
Oui, oui, parce qu'avec cette puissance, évidemment. Alors, venons-en, il nous reste à peu près un bon 6 minutes. Benjamin Boivin, vous nous parlez donc de la nouvelle politique étrangère états-unienne sous Joe Biden, président démocrate, récemment élu. Et évidemment, on pense à la Chine, on pense à l'Europe, on pense à l'Iran, on peut penser à Israël, on peut penser à bien des choses. C'est vaste, les affaires étrangères. Qu'est-ce que vous avez retenu?
Ben, vous parliez un peu plus tôt de la question de l'Iran, de l'accord sur le nucléaire iranien qui avait été consacré à l'époque d'Obama avec John Kerry. Et puis, c'est des grandes puissances internationales, donc les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine, et puis l'Allemagne, évidemment, qui s'est taillé une place dans les négociations, en raison notamment de ses liens économiques importants avec l'Iran à l'époque. Ça, c'est un accord qui va être difficilement reproduisible, là. Depuis que les États-Unis s'en sont retirés, les Iraniens ont continué leur politique de développement nucléaire. Et puis, il va être extrêmement difficile de rétablir la confiance entre ces deux nations qui, déjà à l'époque d'Obama, avaient des relations extrêmement conflictuelles. Donc ça, c'est probablement l'une des plus grandes défaites des années Trump en matière de politique étrangère. Puis un autre élément, là, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais je pense que ça vaut la peine d'y revenir, c'est la question du partenariat transpacifique. À l'époque, Obama avait négocié savamment un accord de libre-échange entre les États-Unis et puis la plupart des nations importantes du secteur pacifique autour de la Chine, mais à l'exclusion de la Chine. L'objectif de cet accord-là, c'était d'établir des normes de nature commerciale et juridique entre ces nations-là, et à l'exclusion de la Chine, justement, pour former un genre de barrière économique et juridique contre la puissance montante de Xi Jinping. Et puis ça, c'est une politique qui ne pourra pas être reconstruite une fois qu'elle a été détruite avec la même efficacité. Là, plusieurs de ces pays-là se sont inquiétés du comportement irrégulier des Américains et puis ont essayé de trouver d'autres moyens d'atteindre leurs objectifs.
Oui, Xi Jinping qui est le grand patron de la Chine, le patron incontesté. Justement, je disais en introduction que ce retrait de Trump, de tous les, il a déchiré tous les, ben, il a beaucoup d'accords multilatéraux, etc. Je veux dire, ça a créé un vide. La Chine s'est posée en championne du multilatéralisme. Faut le faire quand même venant de la Chine, qui n'est pas exactement un modèle de subsidiarité.
Non, on peut certainement pas dire ça. Mais justement, je pense que l'un des grands objectifs de la politique étrangère américaine dans les prochaines années, ça va être de rétablir la place des Américains dans le secteur pacifique. Puis ils sont en train d'essayer de renouer les relations, notamment avec Taïwan, qui est une société dans une situation particulière, là, qui n'a ni la reconnaissance des États-Unis, ni celle de la Chine, mais qui malgré tout devrait bénéficier d'une certaine protection au moins tacite. Et puis, les Américains ont aussi d'autres chats à fouetter. Là. Dans les dernières années, avec la présidence de Trump, la relation entre les États-Unis, le Canada et puis les grands pays d'Europe, que constitue le cœur de l'Alliance Atlantique, là, l'OTAN, eh bien, cette alliance-là a été fortement fragilisée. Et puis, l'anti-américanisme, en particulier en Allemagne, est très fort. Ça va être extrêmement difficile pour Biden de convaincre ses interlocuteurs de faire confiance à nouveau aux Américains.
Que dire de la Russie qui n'a toujours pas digéré la perte de son empire soviétique, on peut les comprendre aussi. Poutine est quand même un homme très puissant, rusé, impliqué en Syrie, en Libye aussi, avec les Turcs. Dire, les États-Unis, ils vont devoir aussi remettre le pied là-dedans, non?
Les Américains, les Russes, c'est-à-dire, ont beaucoup profité de la présidence de Trump pour faire des avancées sur certains enjeux. Et puis, de façon intéressante, on se souviendra qu'à l'époque de la campagne présidentielle de 2012, à l'époque où c'était Obama et puis Mitt Romney, dans une autre vie, les démocrates s'étaient beaucoup moqués de Mitt Romney, qui avait caractérisé la Russie comme le principal adversaire en termes de politique étrangère pour les États-Unis. On avait dit à cette époque de Mitt Romney qu'il vivait dans un monde passé, qu'il s'imaginait encore en guerre froide. Mais aujourd'hui, c'est véritablement les démocrates qui sont les plus agressifs envers la Russie. Et puis dans les derniers jours, les dernières semaines, Joe Biden s'est montré très critique du gouvernement de Vladimir Poutine, notamment, évidemment, un peu comme pour la Chine, sous le rapport des droits humains, un peu moins
c'est
que
plutôt,
sous
c'est plus
des rapports
ça
économiques.
Que, oui, alors que Mitt Romney, c'était pas vraiment les droits humains qui fondaient son argument, non?
Non, Mitt Romney était plus dans une perspective stratégique, là, la compétition au niveau des armes, en particulier les armes de destruction massive.
Est-ce qu'on a fait allez-y, il nous reste une minute.
Mais ça, c'est un changement chez les démocrates, parce qu'à l'époque d'Obama, on avait fait beaucoup de tentatives pour renouer la relation avec la Russie sur des bases beaucoup plus positives, notamment à l'époque où Dmitri Medvedev était président et puis Vladimir Poutine premier ministre. Mais vraiment, maintenant, on est sorti de cet environnement-là, on est maintenant complètement ailleurs.
Est-ce qu'on peut dire, il nous reste 35 secondes de Benjamin Boivin, est-ce que Trump, en quittant, a quand même trumpisé le vocabulaire, la conscience que peuvent avoir les États-Unis du monde?
Je pense que jusqu'à un certain point, ça va avoir été vrai, parce qu'on assiste à des changements de discours, on en a parlé à quelques reprises durant notre entretien, des changements de discours même chez les démocrates, et puis probablement que le cas le plus évident, c'est la Chine, ou même des démocrates très à gauche, tiennent un discours assez agressif en termes de politique étrangère au sujet de la Chine, ce qu'on n'aurait pas cru nécessairement possible il y a quelques années.
Benjamin Boivin, merci infiniment pour ce topo brillant, ce topo, enfin, vous nous donnez un coup d'œil d'aquilin d'aigle, n'est-ce pas, avec beaucoup de hauteur sur ce qui attend les États-Unis en politique étrangère sous la présidence de Joe Biden, ou ce à quoi on peut s'attendre selon toute vraisemblance. Merci beaucoup et on vous retrouve dans deux semaines.
Ça a été un plaisir, à bientôt.
Merci Benjamin. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, nous parlerons de Saint-Alexis Falconieri, fondateur avec 6 autres hommes des Servites de Marie. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci, je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.